Vous écoutez RTL. RTL Soir,
on refait le monde avec Stéphane Carpentier.
C'est tous les soirs, on refait le monde, on commente l'actualité. En ce vendredi soir, ils sont déjà très bavards. Virginie Le Guay, la chef adjointe du service politique de Paris Match, est autour de la table. Bonsoir Virginie. L'Italie est là. Paolo Levi, correspondant à Paris de l'agence de presse italienne ANSA. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Bonsoir Jean-Christophe.
Bonsoir.
On est ravis d'accueillir Yves Gégaud, l'ancien ministre, qui est également avec nous. Bonsoir Yves.
Bonsoir.
On a plein d'actualités à commenter. Redevances, Algérie, Brexit. Emmanuel Macron qui recevait du monde à l'Elysée aujourd'hui. Je dirais qu'on commence justement par la redevance. C'est un casse-tête à plus de 3 milliards d'euros. C'est le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, qui propose de la supprimer. Supprimer la contribution à l'audiovisuel public. Son montant est aujourd'hui, il faut le rappeler, en France, de 139 euros par foyer qui possède un téléviseur. Avec la suppression de la taxe d'habitation, Darmanin explique que l'on ne saura plus comment l'adresser. Pour le ministre de la Culture, Franck Riester, c'est au président et au premier ministre de trancher, sachant que nous avons, et je le cite, nous avons besoin d'un service public de l'audiovisuel fort. Alors, est-ce qu'il faut la supprimer? Est-ce qu'il faut l'abolir? Yves Gégaud, d'abord.
Je crois que Franck Riester a raison. On a besoin de trouver des financements pour le service public audiovisuel. Ou alors on renonce au service public. Est-ce qu'il faut une taxe affectée? Ou est-ce qu'il faut noyer ça dans les finances de l'État? Si c'est noyé dans les finances de l'État, il y a toujours le risque, à un moment ou un autre, pour plein de raisons, on vienne renier un peu trop sur le dos de l'audiovisuel public. C'est pas un problème simple, parce qu'en plus il est très symbolique pour les Français. Moi je vois les générations qui suivent, celles de mes enfants, elles regardent plus la télévision, elles suivent les informations, y compris des émissions de télévision, mais sur leur téléphone ou sur leur tablette. Ça ouvre aussi le débat de est-ce qu'il faut au fond aller vers une taxe sur les écrans, puisqu'on est dans ce monde, mais alors là on ouvre un débat qui à mon avis n'est pas populaire du tout. Donc je ne suis pas sûr que dans la situation politique actuelle, ouvrir ce débat apporte plus de positif que de négatif au gouvernement. Pour ma part, je pense qu'il faut garder pour l'audiovisuel public un financement lisible, clair, garanti, pérenne, parce que sinon il n'y aura plus d'audiovisuel public.
Je me tourne vers l'Italie. Paolo, ça se passe comment chez vous en Italie
Chez nous aussi, il y a bien sûr une redevance annuelle sur la télévision publique. Elle était de 113 euros jusqu'à il y a quelques temps. Elle a été réduite à 90 euros. Cette année, pour la première fois, les personnes qui ont plus de 75 ans d'âge vont être exemptées de cette taxe. Ceci dit, elle n'est pas liée à la taxe d'habitation, elle est liée à la facture d'électricité sur la première résidence. Et en revanche, pas sur les résidences secondaires. Ce qui pourrait être une solution en vue de cette abolition ici en France de la taxe d'habitation. Plus généralement, je crois aussi qu'à une époque où les fake news, on est tous en train, en quelque sorte, de découvrir les dégâts des fake news et toute cette fausse information qui circule sur Internet, les contre-vérités. Il est crucial d'avoir un audiovisuel public fort.
Oui, vous êtes d'accord tous les deux là-dessus, Jean-Christophe?
Oui et non. Il faudrait qu'on redéfinisse très précisément ce qu'est l'audiovisuel public, sa mission, notamment de neutralité politique. Je pense que c'est un vrai sujet. En tout cas, moi, dans cette affaire, il me semble qu'il y a trois problèmes. Enfin, il y a trois facettes au problème. Il y a un problème technique. Est-ce que le système actuel est juste et pérenne? La réponse est non. Évidemment que beaucoup de gens regardent maintenant la télévision, non pas sur un poste de télévision, mais sur une tablette ou sur un ordinateur ou sur un téléphone. Donc ce système ne fonctionne plus, n'a plus sa logique. On a parlé de l'Italie, je crois qu'en Grande-Bretagne, la redevance, elle est sur les gens qui ont un poste de téléviseur et un ordinateur. C'est déjà plus logique. Et elle est beaucoup plus chère qu'en France, par ailleurs, à fortiori qu'en Italie. En tout cas, c'est normal qu'on se pose la question de la cohérence de ce système avec l'évolution technologique qui est la nôtre. Donc ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, il y a un petit problème financier, évidemment. C'est que 3 milliards, faut les trouver ailleurs. Sinon, ça veut dire qu'on supprime totalement la télévision publique. Je ne pense pas que ce soit la démarche de Gérald Darmanin. Donc, il y a un petit côté électoraliste, c'est-à-dire le message envoyé, c'est regardez, on va vous faire économiser 3 milliards d'euros, vous les Français. Ça me rappelle ce qu'avait fait Jospin en 2000. Vous savez, quand il y avait la cagnotte, on avait un peu d'argent de côté, et on s'était dit, bon, alors on va redistribuer, on va pas redistribuer, mais on va enlever des impôts. Bah tiens, on va supprimer la vignette. Jospin en 2002, je vous fais pas un dessin, mais il est passé, même pas passé le premier tour. Donc c'est pas forcément un bon calcul politique si c'est le cas. Et pour rester dans la politique, effectivement, l'audiovisuel public, je pense qu'il faut surtout le redéfinir. Est-ce qu'il est vraiment, encore une fois, neutre politique? Est-ce qu'il politiquement, est-ce qu'il remplit totalement sa mission de qualité? Est-ce qu'il est totalement juste? Pour moi, non. Non, il y a plein de choses qui sont pas neutres dans le service public, dans certaines radios, comme France Inter. Je vois pas où est la neutralité politique de France Inter aujourd'hui. Je vois pas où est la qualité du service public dans certains programmes de France 2. Je vois pas où est l'utilité de certaines chaînes du service public qu'on paye. Donc moi, je veux bien qu'on parle, mais on met tout sur la table et pas seulement la redevance, comment on la paye, pourquoi on la paye.
Virginie.
Oui, alors les propos du ministre des Comptes publics, Gérard Darmanin, montrent en tout cas que le sujet est sur la table, et d'autant plus sur la table que comme la taxe d'habitation doit être progressivement supprimée d'ici la fin du quinquennat et qu'aujourd'hui elle est couplée avec la redevance, supprimer un impôt pourrait entraîner la suppression d'autres, d'autant que le coût de perception de la seule taxe, de la seule redevance serait finalement presque aussi élevé que ce que paye chacun, qui est 239 € en métropole, mais alors à ma grande surprise, j'ai appris que c'était 89 € dans les dom-tom. Je ne sais pas pourquoi une télévision coûterait moins cher ou qu'il faudrait moins participer au service public dans les dom-tom qu'en métropole. Bref, c'est un petit détail, pardon.
Parce qu'il y a beaucoup moins d'accès aux chaînes publiques, compte tenu notamment du décalage horaire, et que l'offre télévisuelle publique dans les Outre-mer est bien moindre, donc c'est proportionnel.
Bon, ben voilà, on a la réponse en direct.
Merci Yves Jégo.
De l'ancien ministre de l'Outre-mer, donc ça vient.
Monsieur Jégo, bravo.
C'était un test.
Moi, je trouve qu'effectivement, la question du financement public se pose. Mais alors, à ce moment-là, si elle se pose complètement, elle se pose aussi au travers des aides directes ou indirectes à la presse, qui ne sont, elles, pas incluses dans la redevance. Mais il y a des aides directes, indirectes à la presse. Il y a des aides directes pour des journaux aussi différents que l'Humanité ou La Croix. Soit on part du principe qu'effectivement, l'État doit aider la presse, qu'elle soit public ou privé, à vivre, soit on part du principe, et j'entendais déjà des débats là cet après-midi, que la presse doit être indépendante, ce qui n'est pas le cas en France. Donc si on doit remettre à plat le système, il faut le remettre complètement. Je crains qu'il ne soit pas du tout remis en question et qu'on pourrait peut-être se contenter de supprimer la redevance au titre des innombrables ballons d'essai qui sont lancés ces dernières semaines dans le cadre de la résolution du grand débat et ne pas réfléchir à l'ensemble du problème posé. Donc je ne sais pas ce qui se passera. De toute façon, il faudra bien substituer les sommes qui seraient qui sont aujourd'hui affectées. Il faudra bien les substituer d'une façon ou d'une autre.
Yves Jégo, comment on fait pour retrouver 3 milliards d'euros là?
Alors ça, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais au ministre Darmanin sur ce sujet. C'est pas si simple, parce que 3 milliards, c'est pas une paille. Voyez bien que dès qu'on ouvre ce débat, et le tour de table l'a prouvé, on ouvre des boîtes de Pandore d'autres sujets, effectivement. Moi, je rejoins ce qui a été dit sur est-ce que le service public est rationnel, est-ce qu'il est cohérent, est-ce qu'il est de qualité, est-ce qu'il est neutre, est-ce qu'au fond, on peut détacher l'aide de l'État ou le financement par l'État du service public de l'aide à la presse, parce que toute la presse est aidée. Enfin, on voit bien qu'on ouvre des débats qui dépassent largement cette question de taxe, et que si on reste sur cette question de casse, ça peut apparaître comme une sorte de cadeau qu'il faudra bien compenser par ailleurs. Honnêtement, je ne vois pas bien où.
Et j'ajouterais qu'elle est bien moins élevée, cette redevance, chez nous, que dans les autres pays d'Europe. J'ai relevé quelques chiffres. En Allemagne, c'est 216 €, en Grande-Bretagne, 164, en Suisse, 392, mais en Autriche, elle est variable, et elle peut aller jusqu'à 320 €. Ouais. Donc, il faut relativiser mais aussi.
Faisons le match BBC France 2, si vous voulez, et on comprendra peut-être pourquoi on paye plus cher en Angleterre.
Je ne critique pas. Pas le fait qu'elle soit plus élevée ailleurs, oui, peut-être. Oui.
On refait le monde, la suite, c'est dans un instant, à tout de suite.
RTL Soir, jusqu'à 20h.
On refait le monde, avec Stéphane Carpentier.
Et avec nous, et pour vous, ce soir, Paolo Lévy, Virginie Leguet, Jean-Christophe Buisson et Yves Jégo. Jean-Christophe disait pendant la pub, il n'y avait qu'un ancien ministre qui va pouvoir nous expliquer ce qui se passe concernant le Brexit. Parce que jamais 203, c'est la troisième fois que les députés britanniques ont rejeté l'accord du Brexit de Theresa May. La première ministre avait pourtant mis sa démission dans la balance. Désormais, il y a deux alternatives. Une sortie sans accord le 12 avril ou un long report du divorce. Pour la Commission européenne, le plus probable, c'est le no deal. Emmanuel Macron a assuré tout à l'heure que nous y sommes prêts. Un sommet européen spécial est convoqué le 10 avril prochain. Est-ce que le Royaume-Uni va dans le mur? Avant d'écouter Yves Jégo, Virginie Leguet.
En tout cas, on voit à travers les propos d'Emmanuel Macron que lui, il se prépare clairement à une sortie dure. Il exclut.
C'est schématisé, c'est bon, c'est prêt, quoi.
Bah, il dit on est même le pays le plus prêt, on est complètement prêt, mais ce qui sous-entend qu'il exclut l'autre hypothèse qui serait d'un long report. Donc, effectivement, la Grande-Bretagne et surtout la classe politique anglaise s'est mise dans un sac de nœuds incroyable. Et quand on se souvient de la campagne qui a eu lieu pour le Brexit, ça vient du fait que le responsable de l'époque voulait simplement sauver son siège. Et pour sauver son siège, il a lancé cette idée du référendum. Le résultat n'a pas été celui qu'il espérait et tout s'est enclenché de façon effrayante. Enfin, c'est vraiment la spirale vers le bas qui ne semble même plus s'arrêter. Et aujourd'hui, la classe politique anglaise est totalement éclatée, totalement déconsidérée. Et Theresa May va jusqu'à mettre dans la balance sa propre personne en disant « mais moi je m'efface et ça ne change rien ». Ouais. Ça ne change rien. Et moi je trouve ça très inquiétant de ce que ça dit des déclarations irresponsables d'une classe politique. Bon là, en l'occurrence, il s'agit des Anglais. Et du coup, de la défiance des populations qui est très forte chez nous, très forte en Angleterre et qui est très forte dans beaucoup de pays et qui provoque la montée des votes populistes. Et on verra aux Européennes ce que ça va donner.
Jean-Christophe.
Pourquoi la défiance? Je comprends pas. Parce que
moi, qu'une classe politique qui ment éhontée. Les responsables anglais, quand ils ont parlé du Brexit, ont donné des avantages en disant voilà ce qui va se passer.
Ceux qui étaient hostiles ont expliqué que ça allait être la fin du monde aussi. Si vous allez par là, dans la politique, chacun fait une campagne où il y a une part de mensonge, une part de vérité.
Là, en l'occurrence, il y a eu des mensonges énormes qui ont été répétés pendant des semaines et des semaines. On a vu des camions circuler avec des sommes qui n'étaient pas les bonnes sommes.
Vous avez déjà vu une campagne politique où les hommes politiques ne disent pas de mensonges, à part Yves Jégot? Dites-le-moi, mais je n'y crois pas beaucoup.
J'ai arrêté la politique, c'est pour ça d'ailleurs. Que maintenant, oui, vous pouvez être sûr que ce que je dis est la vérité.
Moi, je veux croire qu'il est possible qu'une classe politique dise moins de mensonges et essaye de récupérer le respect de son électorat.
Je trouve dans cette affaire, on peut ricaner, on peut trouver d'ailleurs que Theresa May ressemble, vous savez, à Peter Sellers au début de la partie, lorsqu'il joue pour alerter les Anglais qu'ils vont être attaqués. Il joue, il est supposé être tué, il continue à jouer du corps, etc. Et Theresa May, il y a un côté comme ça, une agonie qui n'en finit pas pour elle. On peut se moquer de tout ce qui se passe à la Chambre des communes depuis quelques semaines.
Mais moi,
je parle pas de ça, je dis bon, c'est pour ça que je n'ai pas dit. Ce qui reste, c'est que je trouve exemplaire que cette Chambre des communes, puisque le peuple, vous allez dire parce qu'on lui a menti, c'est très bien.
On l'a trompé,
puisque le peuple
a
voté pour le Brexit, on fait tout ce qui est possible. Mais on garde dans l'idée qu'on va faire le Brexit. On va jusqu'au bout avec des combinaisons auxquelles on ne comprend rien. On propose à Bruxelles quelque chose, puis le contraire, puis l'inverse, etc. Mais il y a une chose qu'on ne remet pas en cause, c'est qu'on a voté pour le Brexit. On cherche une solution pour sortir le moins mal possible ou le pire possible, mais on reste dans cette idée-là. Donc il y a un respect du vote du référendum, même si la semaine dernière, il y avait 1 million d'Anglais dans la rue.
Vous avez vu les manifestants dans les rues?
Et alors parce que vous avez 1 million de personnes dans la rue.
C'est pas rien. Hein.
Oui, mais 17 millions ou 20 millions de gens qui votent pour le Brexit, c'est pas rien non plus. Et il se trouve qu'ils sont moins à Londres que dans les campagnes, qu'on méprise un petit peu dans cette affaire. En tout cas, moi, je trouve que l'Angleterre, on peut se moquer, mais il y a une leçon par rapport à ce débat qui n'est qu'autour d'une idée, c'est comment on sort à partir du moment où on a décidé de sortir. Et c'est pas de refaire voter comme on l'a fait dans certains pays parce qu'ils ont pas voté comme il faut, comme le politiquement. Politiquement correct l'exige.
Notamment chez nous, on est revenu sur des...
Exactement, ça, je préfère la solution anglaise, quitte à ce qu'ils aillent dans ce qu'on considère comme le mur, dans un no deal, dans une catastrophe, mais au moins, ils vont jusqu'au bout. C'est ce qu'ils ont fait en 40. En 40, c'était mieux pour eux de ne pas entrer en guerre que de résister. Il y avait plus d'intérêt à ne pas entrer en guerre, mais il y a une notion en Angleterre qui s'appelle la liberté, qui est absolue, et qu'on respecte jusqu'au bout, quitte à prendre des risques et prendre des bombes sur la tête.
Mais peut-être pas choisir l'option la pire pour eux.
Mais qu'est-ce que vous en savez,
Paolo?
Le no deal me semble être l'option la pire pour eux.
Qu'est-ce que vous en savez?
On verra, l'histoire le dira, mais pour l'instant, ça semble se diriger vers ça.
Paolo Levi.
Écoutez, non, on va voir qu'est-ce que ça va donner au niveau du mensonge. C'est vrai, je vous rejoins, certains mensonges, le monde ment en politique un petit peu, mais certains mensonges étaient vraiment énormes, je pense notamment aux avantages qu'on a laissé miroiter par rapport au système sanitaire anglais, qui était complètement fantasmagorique et c'était vraiment des énormités qui n'avaient pas lieu d'être. Et la presse aussi a une responsabilité très très importante en Grande-Bretagne, particulièrement les tabloïds, parce qu'ils ont alimenté toutes ces fausses informations qui ont entraîné ce vote de sortie de l'Union européenne. Après, je rejoins Jean-Christophe, bien sûr, c'est un vote, et il faut le respecter à tout prix. Aujourd'hui, la réflexion qu'on peut se faire, c'est, ok, d'accord, On est au troisième, à la troisième vote négatif par rapport au plan de Theresa May, mais il faut absolument, alors que ces députés parlementaires qui disent non, proposent une voie alternative, parce que procrastiner pour procrastiner, c'est pas un projet et l'Europe ne veut pas l'accepter. On veut avoir au moins un plan qui nous montre un parcours.
Yves Jégo.
Oui, d'abord, Stéphane, vous avez parfaitement expliqué ce qu'était le Brexit, donc je n'ai pas besoin d'expliquer les choses. Vous avez été très clair dans votre présentation. Non, moi, j'ai plusieurs réflexions. La première, je pense que, au fond, ce qui se passe est utile si on veut sauver l'Europe. Parce qu'il faut absolument montrer aux Européens qu'on n'est pas enfermé dans l'Europe, quoi qu'il arrive, et qu'on a le droit d'en sortir. Ça, je pense que c'est très important de dire au fond aux Européens, mais si vous voulez sortir, si vous voulez casser le pacte, c'est possible. Deuxièmement, je crois qu'il y a eu une imprudence, c'est toujours facile de le dire après. Moi qui étais en charge des Outre-mer, j'ai mesuré combien le processus mis en place par Michel Rocard sur la question de la Nouvelle-Calédonie était un processus prudent, puisqu'il y aura 3 référendums. Et on posera 3 fois la question. Et je pense que sur certains sujets aussi graves, aussi majeurs, il faudrait, mais ça ne peut être fait qu'à l'origine, poser plusieurs fois la question. On aurait pu, par exemple, parfaitement imaginer que, au moment où on vote sur le Brexit, on prenne l'engagement, les pays européens demandent, le gouvernement britannique dise, eh bien, au moment de sortir, nous poserons la question sur les conditions de sortie. Nous proposerons les 600 pages du plan de Madame May auraient pu être soumis à référendum. Ça aurait pu être un processus démocratique qui apaise les choses et qui permette d'en sortir plus facilement. Il y a sans doute pour l'avenir des leçons à tirer de ce qui se passe. C'est vrai que l'image est un peu stupéfiante, qu'on a le sentiment que Westminster est plus un asile psychiatrique au fond qu'un lieu où on décide d'un chemin clair et où se dessine une majorité. Theresa May, elle avait quand même une majorité. Elle était quand même assise sur une majorité politique. Moi, je n'espère qu'une chose, c'est que ils vont pouvoir décider d'un chemin, qu'on va pouvoir les accompagner. Et c'est vrai que moi, à titre personnel, j'ai mal de voir que la deuxième économie de l'Europe s'en va, qu'on n'a pas su, au fond, convaincre les Britanniques que la construction européenne était utile et qu'on a échoué. C'est un échec collectif que cette sortie. C'est un échec sans doute politique pour Madame May. Ce soir, c'est plus Sœur Theresa que le Premier ministre britannique, parce que je pense qu'elle y met son cœur, effectivement, comme l'a dit Jean-Christophe, pour essayer de répondre au vote du peuple et qu'elle est dans une situation politique inextricable.
Mais même son suicide politique, elle est en train de le rater.
Et même sa sortie, elle est en train de la rater.
Yves Jégo, Jean-Christophe Buisson, Paolo Lévy et Virginie Le Guay refont le monde dans un instant. À tout de suite.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Stéphane Carpentier.
On refait le monde ce soir avec Paolo Lévy, avec Virginie Le Guay, avec Jean-Christophe Buisson et Yves Jégo. Tous les vendredis, ce sont les mêmes images et les mêmes slogans. Une nouvelle fois, une foule immense a envahi aujourd'hui les rues d'Alger pour réclamer le départ de Bouteflika. 6e journée de manifestation. C'est vrai que les images sont assez impressionnantes. La vraie question est de savoir si ce peuple qui réclame le départ de tout le monde, c'est-à-dire la fin de tout un système, va pouvoir l'emporter ou pas, Jean-Christophe Buisson.
Oui, parce que ce qui se passe aujourd'hui est la réponse à ce qui a été proposé dans la semaine avec le général Gaït Salah de faire quelque chose de transitoire, de sortir Bouteflika et de garder la main sur avec ce fameux article 102 de la Constitution. La Constitution algérienne est très bien faite parce qu'elle est faite pour que le FLN garde le pouvoir dans tous les cas de figure. Qu'il y a un président qui n'en ait pas, qu'il y a un premier ministre qui n'en ait pas, il garde tout en main. Et donc les grandes manifestations qu'on voit encore aujourd'hui montrent bien que non, on veut que tout le monde sorte. Moi, ça me rappelle vraiment de plus en plus, on en a déjà parlé il y a une quinzaine de jours, je crois, ici, les pays communistes en 1989. Il y a eu plusieurs manières de sortir du communisme pour des pays comme l'URSS, pour l'Allemagne, pour la Tchécoslovaquie et la Roumanie. Moi, j'ai vraiment le sentiment que là, on est dans un scénario roumain, c'est-à-dire que tous ceux qui sont en train de faire défection, en fait, font défection officiellement, c'est-à-dire ils lâchent Bouteflika comme le Parti communiste a lâché à un moment donné Ceausescu, parce qu'ils ont déjà anticipé l'étape suivante pour rester au pouvoir, en changeant le mot communiste, en le transformant par social-démocrate ou socialiste. Là, ce sera plus FLN, ça sera un autre nom, mais comme ça, on a dégagé Bouteflika, on dégage le patron des patrons qui est un ami de Bouteflika, on dégage effectivement le général Salah. Regardez comme on est neuf, on est propre. En fait, c'est les mêmes. C'est ça qui m'inquiète. Mais comme ça a déjà eu lieu et que les Algériens savent que ça a eu lieu, ils ne, je pense, ne se feront pas avoir de la même façon qu'à l'époque où c'était tout neuf et on était tellement content de voir partir des dictateurs communistes comme Ceausescu ou Rákosi en Hongrie et d'autres, que on s'est satisfait, on n'a pas regardé dans le détail qui prenait la suite pour s'apercevoir après que c'était des communistes plus présentables, mais qui avaient gardé leur réflexe, notamment leur réflexe de corrompu. C'est quand même ça aussi le sujet pour des pays comme l'Algérie. C'est est-ce que la corruption va disparaître avec le système
avec
HLM
le système.
Oui, on peut imaginer. Alors, moi, je ne ferai pas le même parallélisme parce qu'au fond, on sait parfaitement qui va prendre le pouvoir si ce n'est plus le FLN ou les héritiers du FLM. Il n'y a aucune ambiguïté, ce sont les islamistes. On sait parfaitement, ça n'est pas dit, mais que la Turquie est à la manœuvre et à la manœuvre politique, qu'Erdogan est à la manœuvre sur ce sujet, et qu'au fond, si l'Algérie ne réussit pas, je pense que le sort personnel de Bouteflika est réglé, son mandat s'arrête le 28 avril, et que il ira jusqu'à la fin de son mandat et que les choses n'iront pas plus loin. Je ne pense pas être grand clair que de prévoir ça. Mais sur la suite, s'il y a un renversement du système et des élections là, c'est les islamistes qui prendront la main. S'il y a une solution transitoire qui amènerait avant la fin de l'année un mode électoral, peut-être que la classe politique peut sans doute. Mais vous dites au fond, est-ce qu'il y a une vraie alternative? Parce que tout le monde a été dans le système. Parce qu'il n'y a pas un homme politique visible qui n'ait pas été quelque part autour, dans et avec le système, puisque c'est ce qui a fait le socle du fonctionnement du pays depuis 60 ans. Donc l'alternative, elle n'est que, à mon avis, dangereuse. Ce qu'il faut espérer, c'est que la jeunesse qui revendique et qui aspire à la liberté saura trouver un chemin qui ne l'emmènera pas vers quelque chose de pire que ce qu'elle vit aujourd'hui. Moi, je ne suis pas grand clair. Je trouve que les manifestations sont soft, que cette mobilisation elle est plutôt jusqu'à aujourd'hui fraîche, sans violence. C'est peut-être aussi parce que l'Algérie est un pays qui n'a pas faim. C'est peut-être aussi parce qu'il y a un développement, il y a un mode de consommation en Algérie qui est quand même, les gens ne sont pas dans la rue parce qu'ils ont faim, ils sont dans la rue parce qu'ils aspirent à plus de liberté. Et je crois que le devoir de la France au regard de notre lien avec ce pays, c'est d'essayer d'accompagner une transition la plus douce possible et de donner la main dès que ce sera possible aux Algériens avec une offre politique qui n'existe pas aujourd'hui.
Virginie.
Moi, je suis très frappée de la ferveur des manifestants que l'on voit pour le 6e vendredi aujourd'hui, de leur âge. 45% de la population algérienne a moins de 25 ans, et c'est ceux-là qui sont dans la rue, ceux-là qui n'ont jamais connu que Bouteflika, qui est au pouvoir depuis 20 ans, qui a 82 ans, et qui disent aujourd'hui, on ne veut plus de toi, mais on ne veut pas non plus de ceux qui pourraient te remplacer, et qui sont finalement des émanations de toi-même, et qui sont avec toi depuis toujours, parce que le général Gaïd Essalah, il est avec Bouteflika depuis le début, c'est un de ses plus fidèles pilier, c'est un des hommes les plus puissants d'Algérie, et je suis très frappée de leur courage, je suis très frappée de leur presque utopie, et je crains qu'au bout du bout, ce qu'on leur propose à la fin ressemble fort, même si ça aura un nom différent, des visages différents, peut-être des responsables différents, ressemble fort à ce qui est actuellement au pouvoir. On va leur proposer un ersatz, un substitut, comme ce que voulait d'ailleurs le général Gaïd Essalah. Il voulait avoir la main sur la transition pour mieux la contrôler, et faire en sorte que le processus soit assez court pour que l'opposition n'ait pas le temps de s'organiser. Je les vois mal lâcher l'affaire si facilement.
Paolo, Déby.
Pour l'instant, ce qu'on a vu a été exemplaire, vraiment une leçon même pour
nos gilets jaunes.
Par rapport aux manifestations qu'on a pu voir en France, je veux dire, un peuple exemplaire jusqu'ici dans cette révolte démocratique et pacifique et courageuse, et c'est émouvant. Ceci dit, l'Algérie, je crois avoir compris qu'elle marche aujourd'hui sur une ligne de crête, et c'est très très dangereux parce que elle peut basculer à tout moment du mauvais côté, et cela représenterait aussi un risque pour nous tous, parce qu'une déstabilisation de ce pays immense à nos portes pourrait relancer par exemple une crise migratoire, et on en a déjà payé les conséquences politiquement tous en Europe. Donc j'ai confiance dans ce peuple mûr pour qu'il puisse mener à bon port cette transition qu'il appelle de ses voeux.
Jean-Christophe.
Oui, je pense qu'il ne faut juste pas être naïf sur l'absence de répression. Il me semble qu'il n'y a pas de répression, parce que soit c'est déjà, encore une fois, les mécanismes institutionnels sont tels que ceux qui sont au pouvoir ne risquent pas grand-chose, et qu'ensuite, ils savent très bien que s'il y a répression, C'est les islamistes, comme le disait Yves Jégo, qui récupèrent la main, qui récupèrent le mouvement, qui ont la capacité de faire preuve de violence contre la répression. Donc cette répression, elle n'est pas due au fait que ce peuple est généreux et que tout le monde est d'accord. C'est qu'il y a un jeu de dupes qui se passe en ce moment en Algérie. Pas seulement à Alger, d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi des manifestations en province, ce qui est vraiment intéressant à noter. Ouais. Mais parce que tout le monde est un petit peu sur un volcan tremblant du geste de trop, soit de la part des manifestants, soit de la part de l'armée, parce que tout le monde a en tête, effectivement, comme l'a dit Jégo, le fantôme, l'ombre des islamistes qui plane au-dessus de ce pays.
La suite et la fin de Orphée le Monde sur RTL, c'est juste après ceci, à tout de suite.
RTL soir jusqu'à 20h, on refait le monde.
Stéphane Carpentier.
Après les Britanniques, après les Algériens, j'aimerais qu'on revienne chez nous en France, parce que demain c'est l'acte 20 des Gilets jaunes. On a 5 minutes, j'aimerais vous entendre sur la décision ou l'annonce du nouveau maire de Bordeaux, qui a annoncé une ville morte pour demain, pour cet acte 20. En gros, il veut tout barricader. Il demande aux gens de rester à la maison. Et Yves Jégo, j'aimerais vous entendre là-dessus, particulièrement vous, l'ancien ministre et l'ancien maire. Tout le monde à la maison et les commerçants, vous baissez les rideaux. On en est là aujourd'hui. Vous la comprenez, cette décision, cette annonce du maire de Bordeaux ?
Oui, moi je connais bien Nicolas Florian. C'est un garçon extrêmement sérieux qui a grandi dans l'ombre d'Alain Juppé, si j'ose dire. Et s'il est amené à prendre cette décision, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a des inquiétudes très fortes, qui ont été exprimées d'ailleurs par les services de l'État, qu'il y ait une concentration de casseurs à Bordeaux, que Bordeaux a subi des dégâts importants. Qu'est-ce que peut faire un maire ? Quels sont ses moyens quand il est face à cette situation, essayer de monter le niveau d'alerte et d'être dans une situation de quasi-guerre civile, ça peut paraître comme ça, vu de ce studio, exagéré, mais je pense que pour les commerçants bordelais et pour les bordelais, c'est une réalité. Et c'est une réalité qui donne malheureusement aussi raison aux Gilets jaunes, puisque une espèce de notion de mouvement déclinant prendre la vigueur depuis qu'on a cassé dans Paris, ce qui s'est passé la semaine dernière, peut-être demain Bordeaux, ville morte et ville assiégée. Tout ceci est très inquiétant sur notre incapacité à juguler ce phénomène et à trouver des réponses. Alors, pas seulement politiques, mais des réponses aussi policières, des réponses d'ordre sur un phénomène qui est d'ailleurs porté et soutenu en sous-main par des mouvements radicaux, que ce soit de l'ultra-gauche ou de l'ultra-droite. Tout ça, ça devient l'ultra-jaune. Qui est là pour casser et pour entraîner des gens qui n'en peuvent mais vers des extrêmes qui sont très inquiétants.
Il a raison, le maire de Bordeaux, d'appeler une ville morte demain.
Oui, les casseurs n'étaient pas à Paris la semaine dernière et il semblerait qu'ils aient décidé d'aller en province demain. Et ça sera à Bordeaux, peut-être à Toulouse et peut-être encore dans d'autres villes. Et il y a eu beaucoup de remontées par les réseaux sociaux et jusqu'aux plus hautes fonctions de l'État pour dire ça. Peut-être aussi que l'arrière-pensée du maire de Bordeaux, c'est de dissuader les gens d'être dans les rues et de même de faire partie des manifestations et de laisser les seuls casseurs, et cette fois-ci très visiblement cassés. Parce que l'éternelle difficulté des forces de l'ordre, c'est que quand ils se retrouvent devant des cortèges où les casseurs se sont mêlés aux gilets jaunes, ils doivent à la fois protéger les gilets jaunes et s'en prendre aux casseurs. Et ils ont répété inlassablement depuis 2 ou 3 mois qu'ils ne peuvent pas faire les deux choses à la fois. Et quand ils lancent des ordres de dispersion, les gilets jaunes soit refusent de partir, soit restent et les empêchent de faire leur travail, soit applaudissent. Donc voilà, il faut sortir de l'angélisme qui est des gentils gilets jaunes et des vilains casseurs. Il y a des gilets jaunes très radicalisés et qui participent ou qui aident en tout cas à l'action des casseurs. Et peut-être que la dramatisation dont a fait preuve le maire de Bordeaux servira à éviter qu'il y ait trop de monde dans les rues pour venir manifester demain à Bordeaux.
Paolo ou Jean-Christophe, on a quelques secondes encore.
Il n'y a pas de gilets jaunes sans casseurs, mais il n'y a pas de casseurs sans gilets jaunes non plus. Les casseurs ne se déplaceront pas si la ville est morte demain.
C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que moins il y aurait de gilets jaunes, moins il y aura de casseurs.
Mais quand vous dites comme ça, il n'y aura que des casseurs pour régler, non, il n'y aura pas de casseurs demain à Bordeaux, puisqu'il n'y aura pas de gilets jaunes et que les casseurs se mêlent.
Mais ils seraient trop visibles.
Exactement. Non, ce qui est inquiétant, c'est ce qu'a dit Yves Jégo, mais c'est que si on sait que demain, il y aura des Black Blocs qui arrivent à Bordeaux, ça veut dire qu'on a des informations, que les services de l'État sont informés de ces mouvements-là. Donc pourquoi il a fallu attendre 4 mois et demi pour en arriver à cette extrémité ? Avant, les services de police n'avaient pas les moyens de savoir qu'il y avait des groupes de casseurs qui allaient descendre sur les Champs-Élysées, descendre à Toulouse, descendre à Bordeaux. Moi, j'y crois pas une seconde. Quel temps perdu, quel gâchis d'en arriver à faire une ville morte, une ville assiégée, alors que je pense que les services de police ont les moyens de contrôler, de surveiller, d'infiltrer les casseurs et de prévenir les dégâts qu'ils peuvent faire, y compris pour l'image des gilets jaunes.
Paolo.
Oui, non. Pour répondre à Jean-Christophe, il a probablement raison, mais l'expérience permet aussi ensuite d'individuer certains profils qui se sont, au fil des mois, révélés dangereux. Et donc, il y a une expertise qui mûrit.
Enfin, il y a 15 jours, la journée était annoncée violente et visiblement, le dispositif n'était pas du tout au point.
Et Paris, on ne comprend pas le grand mystère de cette journée parisienne, il y a deux semaines, qui reste complètement inexplicable.
On a refait le monde ce soir avec Paolo Lévy, le correspondant à Paris de l'agence de presse italienne ANSA, avec l'ancien ministre Yves Jégo, avec Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, et avec Virginie Leguet, chef adjointe du service politique de Paris Match. Merci à vous. Le foot en direct, c'est juste après 20h. Vous restez bien avec nous.
Vous écoutez RTL.